Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 7, chapitre 4, Sentiments des princes, discours du duc Georges, caractère de la Réformation, 101 griefs, Charles cède, pratique d'Aléandre, les grands d'Espagne, paix de Luther, la mort et non la rétractation. Peu de jours suffirent pour dissiper ses premières impressions, comme cela arrive toujours quand un orateur couvre de paroles sonores le vide de ses arguments. Le plus grand nombre des princes étaient prêts à sacrifier Luther, mais nul ne voulait immoler les droits de l'Empire et les griefs de la nation germanique. On voulait bien livrer le moine insolent qui avait osé parler si haut, mais on prétendait faire sentir d'autant plus au pape la justice d'une réforme quand c'était la bouche des chefs de la nation qui la réclamait. Aussi fût-ce le plus grand ennemi personnel de Luther, le duc Georges de Saxe, qui parla avec le plus d'énergie contre les empiétements de Rome. Le petit-fils de Podiebrad, roi de Bohême, repoussé par les doctrines de la grâce qu'annonçait le réformateur, n'avait pas encore perdu l'espérance de voir s'opérer une réforme morale et ecclésiastique. Ce qui l'irritait si fort contre le moine de Wittenberg, c'était qu'avec ses doctrines méprisées, il gâtait toute l'affaire. Mais maintenant, voyant le nonce affecté de confondre Luther et la réforme de l'Église dans une même condamnation, Georges se leva tout à coup dans l'assemblée des princes, au grand étonnement de ceux qui connaissaient sa haine contre le réformateur. « La diète, dit-il, ne doit point oublier ses griefs contre la cour de Rome. Que d'abus se sont glissés dans nos états. Les annates que l'empereur accorda librement pour le bien de la chrétienté, maintenant exigées comme une dette. Les courtisans romains, inventant chaque jour de nouvelles ordonnances, pour accaparer, pour vendre, pour amaudir à d'autres les bénéfices ecclésiastiques, une multitude de transgressions permises, les transgresseurs riches indignement tolérés, tandis que ceux qui n'ont rien pour se racheter sont impitoyablement punis. Les papes, ne cessant de donner aux gens de leur palais des expectatives et des réserves, au détriment de ceux auxquels les bénéfices appartiennent, les commandes des abbayes et des couvents de Rome remises aux cardinaux, aux évêques, aux prélats qui s'en approprient les revenus, en sorte que l'on ne trouve plus de religieux dans des couvents qui devraient en avoir 20 ou 30. Les stations se multipliant à l'infini et des boutiques d'indulgence établies dans toutes les rues et sur toutes les places de nos cités, les boutiques de Saint-Antoine, celles du Saint-Esprit, celles de Saint-Hubert, celles de Saint-Corneille, celles de Saint-Vincent et bien d'autres encore, des sociétés achetant à Rome le droit de tenir de tels marchés, puis achetant de leur évêque le droit d'étaler leurs marchandises et pour avoir tant d'argent, pressant, vidant la bourse des pauvres. L'indulgence, qui ne doit être accordée que pour le salut des âmes et que l'on ne doit mériter que par des prières, des jeûnes, des œuvres de charité, se vendant à prix. Les officiels des évêques, accablant les petits de pénitence pour des blasphèmes, des adultères, des débauches, des violations de tel ou tel jour de fête, mais n'adressant pas même une réprimande aux ecclésiastiques qui se rendent coupables de tels crimes. Des peines imposées aux pénitents et combinées de manière à ce qu'ils retombent bientôt dans la même faute et donnent d'autant plus d'argent. Voilà quelques-uns des abus qui crient contre Rome. On a mis de côté toute honte et l'on ne s'applique plus qu'à une seule chose, de l'argent, encore de l'argent. En sorte que les prédicateurs, qui devraient enseigner la vérité, ne débitent plus que des mensonges et que non seulement on les tolère, mais on les récompense parce que plus ils mentent, plus ils gagnent. C'est de ce puits fangeux que proviennent tant d'eau corrompue. La débauche donne la main à l'avarice. Les officiels font venir chez eux des femmes sous divers prétextes et s'efforcent de les séduire, tantôt par des menaces, tantôt par des présents, ou s'ils ne le peuvent, ils les perdent dans leur réputation. Ah, c'est le scandale que le clergé donne qui précipite tant de pauvres âmes dans une condamnation éternelle. Il faut opérer une réforme universelle. Il faut réunir un concile général pour accomplir cette réforme. C'est pourquoi, très excellents princes et seigneurs, je vous supplie avec soumission de vous en occuper en toute diligence. » Le duc Georges remit la liste des griefs qu'il avait énumérés. Ce fut quelques jours après le discours d'Aléandre. Cet écrit important nous a été conservé dans les archives de Weimar. Luther n'avait pas parlé avec plus de force contre les abus de Rome, mais il avait fait quelque chose de plus. Le duc signalait le mal. Luther, avec le mal, en avait signalé et la cause et le remède. Il avait montré que le pécheur reçoit l'indulgence véritable, celle qui vient de Dieu, uniquement par la foi à la grâce et au mérite de Jésus-Christ. Et cette simple mais puissante doctrine avait renversé tous les lieux de marché établis par les prêtres. « Comment devenir pieux ? » demandait-il un jour. Un cordelier répondra « Revêtez un capuchon gris et saignez-vous d'une corde. » Un Romain répliquera « Entendez la messe et jeûnez. » Mais un chrétien dira « La foi en Christ seule justifie et sauve. » Avant les œuvres, nous devons avoir la vie éternelle. Mais quand nous sommes nés de nouveau et faits enfants de Dieu par la parole de la grâce, alors nous faisons de bonnes œuvres. Le discours du duc était celui d'un prince séculier. Le discours de Luther était celui d'un réformateur. Le grand mal de l'Église était de s'être jeté tout entière au dehors, d'avoir fait de toutes ses œuvres et de toutes ses grâces des choses extérieures et matérielles. Les indulgences avaient été le point extrême de cette marche, et ce qu'il y a de plus spirituel dans le christianisme, le pardon, s'était acheté dans des boutiques comme le manger et le boire. La grande œuvre de Luther consista précisément en ce qu'il se servit de ce point extrême de la dégénération de la chrétienté pour reconduire l'homme et l'Église à la source primitive de la vie et rétablir dans le sanctuaire du cœur le règne du Saint-Esprit. Le remède sortit ici, comme cela arrive souvent, du mal même, et les deux extrêmes se touchèrent. Dès lors, l'Église, qui pendant tant de siècles s'était développée au dehors, en cérémonies, en observances et en pratiques humaines, recommença à se développer au-dedans, en foi, en espérance et en charité. Le discours du duc fit d'autant plus d'effet que son opposition à Luther était plus connue. D'autres membres de la diète firent valoir des griefs différents. Les princes ecclésiastiques eux-mêmes appuyèrent ses plaintes. « Nous avons un pontife qui n'aime que la chasse et les plaisirs, » disait-il. « Les bénéfices de la nation germanique se donnent à Rome, à des bombardiers, à des fauconniers, à des chambrelans, à des âniers, à des garçons d'écurie, à des gardes du corps et à d'autres gens de cette espèce, ignorants, inhabiles et étrangers à l'Allemagne. » La diète nomma une commission chargée de recueillir tous les griefs. Elle en trouva 101. Une députation composée de princes séculiers et ecclésiastiques en présenta le relevé à l'empereur, le conjurant d'y faire droit, comme il s'était engagé dans sa capitulation. « Que d'âmes chrétiennes perdues, » dirent-ils à Charles Quint, « que de déprédations, que de concussions à cause des scandales dont s'entoure le chef spirituel de la chrétienté. Il faut prévenir la ruine et le déshonneur de notre peuple. C'est pourquoi, tous ensemble, nous vous supplions très humblement, mais de la manière la plus pressante, d'ordonner une réforme générale, de l'entreprendre et de l'accomplir. Il y avait alors dans la société chrétienne un pouvoir inconnu qui travaillait les princes et les peuples, une sagesse d'en haut qui entraînait les adversaires même de la réforme et qui préparait l'émancipation dont l'heure avait enfin sonné. Charles ne pouvait être insensible à ces représentations de l'Empire. Ni le nonce, ni lui, ne s'y étaient attendus. Son confesseur lui avait même dénoncé les vengeances du ciel s'il ne réformait pas l'Église. L'empereur retira aussitôt l'édit qui ordonnait de livrer aux flammes les écrits de Luther dans tout l'Empire et y substitua un ordre provisoire de remettre ses livres aux magistrats. Cela ne satisfit point l'Assemblée. Elle voulait que le réformateur comparût. « Il est injuste, disaient ses amis, de condamner Luther sans l'avoir entendu et sans savoir par lui-même s'il est l'auteur des livres que l'on veut brûler. » Sa doctrine, disaient ses adversaires, s'est tellement emparée des cœurs qu'il est impossible d'en arrêter le progrès si nous ne l'entendons pas lui-même. On ne disputera point avec lui et, s'il avoue ses écrits et refuse de le rétracter, alors, électeurs, princes, états du Saint-Empire, tous ensemble, fidèles à la foi de nos ancêtres, nous aiderons votre majesté de toutes nos forces dans l'exécution de ces décrets. » Aléandre, alarmé, redoutant tout de l'intrépidité de Luther et de l'ignorance des princes, se mit aussitôt à l'œuvre pour empêcher la comparution du réformateur. Il allait des ministres de Charles aux princes les mieux disposés en faveur du pape et de ses princes à l'empereur lui-même. « Il n'est pas permis, disait-il, de mettre en question ce que le souverain pontife a arrêté. On ne disputera pas avec Luther, dites-vous, mais, poursuivait-il, la puissance de cet homme audacieux, le feu de ses regards, l'éloquence de ses paroles, l'esprit mystérieux qui l'anime, ne suffiront-ils pas pour exciter quelques séditions ? Déjà, plusieurs le vénèrent comme un saint, et l'on trouve partout son image, entouré d'une auréole de gloire, comme la tête des bienheureux. Si l'on veut le citer à comparaître, que du moins on ne le mette pas sous la protection de la foi publique. » Ces dernières paroles devaient effrayer Luther ou préparer sa ruine. Le nonce trouva un accès facile auprès des grands d'Espagne. En Espagne, comme en Allemagne, l'opposition aux inquisiteurs dominicains était nationale. Le joug de l'Inquisition, qui avait été pour un temps écarté, venait d'être rétabli par Charles. Un parti nombreux sympathisait dans la péninsule avec Luther, mais il n'en était pas ainsi des grands qui retrouvaient près du Rhin ce qu'ils haïssaient au-delà des Pyrénées. Enflammés du plus ardent fanatisme, ils étaient impatients d'anéantir la nouvelle hérésie. Frédéric, d'Uldalbe, était surtout transporté de rage chaque fois qu'il était question de la réforme. Il eût voulu marcher dans le sang de tous ses sectateurs. Luther n'était pas encore appelé à comparaître, que déjà son nom seul agitait tous les seigneurs de la chrétienté réunis alors dans Worms. L'homme qui remuait ainsi les puissances de la terre semblait seul en paix. Les nouvelles de Worms étaient alarmantes. Les amis de Luther eux-mêmes étaient effrayés. « Il ne nous reste rien que vos vœux et vos prières », écrivait Mélenchon à Spalatin. « Oh, si Dieu daignait racheter au prix de notre sang le salut du peuple chrétien !» Mais Luther, étranger à la crainte, s'enfermant dans sa paisible cellule, y méditait en se les appliquant ces paroles où Marie, mère de Jésus, s'écrie « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Le Puissant m'a fait de grandes choses et son nom est saint. Il a puissamment opéré par son bras, il a renversé de dessus leur trône les puissants et il a élevé les petits. » Évangile de Luc, chapitre 1, versets 46 à 55. Voici quelques-unes des pensées qui se pressaient dans le cœur de Luther. « Le puissant, dit Marie, oh, c'est une grande hardiesse de la part d'une jeune fille. D'un seul mot, elle frappe de langueur tous les forts, de faiblesse tous les puissants, de folie tous les sages, d'opprobre tous ceux dont le nom est glorieux sur la terre, et elle dépose aux pieds de Dieu seul toute force, toute puissance, toute sagesse et toute gloire. Son bras, continue-t-elle, et elle appelle ainsi ce pouvoir par lequel il agit de lui-même et sans le secours des créatures, pouvoir mystérieux qui s'exerce en secret et dans le silence, jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il s'était proposé. La destruction est là, sans que personne ne l'ait vu venir. Le relèvement est là, sans que personne s'en soit douté. Il laisse ses enfants dans l'oppression et la faiblesse, en sorte que chacun dit « Ils sont perdus, mais c'est alors même qu'il est le plus fort, car c'est quand la force des hommes finit que la force de Dieu commence, seulement que la foi s'attende à lui. Et d'autre part, Dieu permet à ses adversaires de s'élever dans leur grandeur et leur puissance. » Il leur retire le secours de sa force et les laisse s'enfler de la leur propre. Il les met à vide de sa sagesse éternelle et les laisse se remplir de leur sagesse d'un jour. Et tandis qu'ils se lèvent dans l'éclat de leur pouvoir, le bras de Dieu s'est éloigné et leur œuvre s'évanouit comme une bulle de savon qui éclate dans les airs. C'est le 10 mars, au moment où son nom remplissait de crainte la ville impériale, que Luther termina cette exposition du Magnificat. On ne le laissa pas tranquille dans sa retraite. Spalatin, se conformant aux ordres de l'électeur, lui envoya la note des articles dont on voulait lui demander la rétractation. Une rétractation après le refus d'Augsbourg. Ne craignez point, écrit-il à Spalatin, que je rétracte une seule syllabe, puisque leur unique argument est de prétendre que mes écrits sont opposés au rite de ce qu'ils appellent l'Église. Si l'empereur Charles m'appelle seulement pour que je me rétracte, je lui répondrai que je resterai ici, et ce sera comme si j'eusse été à Worms et que j'en fusse revenu. Mais si au contraire l'empereur veut m'appeler pour me mettre à mort, comme un ennemi de l'Empire, je suis prêt à me rendre à son appel, car avec le secours de Christ, je n'abandonnerai pas la parole sur le champ de bataille. Je le sais, ces hommes sanguinaires ne prendront aucun repos qu'ils ne m'aient ôté la vie. Oh, si seulement il n'y avait que les papistes qui se rendissent coupables de mon sang. » Livre 7, chapitre 5. Donnera-t-on un sauf-conduit ? Sauf-conduit accordé. Luther viendra-t-il ? Le jeudi saint à Rome. Le pape et Luther. Enfin, l'empereur se décida. La comparution de Luther devant la Diète parut seule propre à terminer de quelque manière cette affaire qui occupait tout l'Empire. Charles Quint résolut de le faire citer, mais sans lui donner de sauf-conduit. Ici recommençait pour Frédéric le rôle de protecteur. Le danger qui menaçait le réformateur n'échappait à personne. Les amis de Luther, dit Cochléus, craignaient qu'on ne le livrât au pape ou que l'empereur lui-même ne le fît périr comme indigne, à cause de son hérésie obstinée, qu'on lui tint aucune promesse. Il y eut à cet égard entre les princes un débat long et difficile. Frappé enfin de la vaste agitation qui remuait alors les peuples dans presque toute l'Allemagne, craignant qu'il n'éclatât sur le passage de Luther quelque tumulte soudain ou quelque dangereuse sédition, sans doute en faveur du réformateur lui-même, les princes jugèrent plus sage de tranquilliser les esprits à son sujet, et non seulement l'empereur, mais encore l'électeur de Saxe, le duc Georges et le landgrave de Hesse, par les états desquels il devait passer, lui donnèrent chacun un sauf-conduit. Le 6 mars 1521, Charles Quint signa la sommation suivante, adressée à Luther. « Charles, par la grâce de Dieu, élu empereur romain, toujours auguste, etc., etc. » Honorable, cher et pieux, nous et les États du Saint-Empire ici assemblés, ayant résolu de faire une enquête touchant la doctrine et les livres que tu as publiés depuis quelque temps, nous t'avons donné pour venir ici et retourner en lieu de sûreté notre sauf-conduit et celui de l'Empire que nous t'envoyons 6 juin. Notre désir sincère est que tu te prépares aussitôt à ce voyage, afin que dans l'espace des 21 jours fixés dans notre sauf-conduit, tu te trouves certainement ici près de nous et que tu n'y manques pas. N'appréhende ni injustice ni violence. Nous voulons maintenir fermement notre sauf-conduit susdit et nous nous attendons à ce que tu répondes à notre appel. Tu suivras en cela notre sérieux avis. Donné dans notre ville impériale de Worms, le 6e jour du mois de mars, l'an du Seigneur 1521, et le second de notre règne, Charles, d'après l'ordre de Monseigneur l'Empereur, de propre main. Le sauf-conduit renfermé dans cette lettre, portait sur l'adresse, à l'honorable, notre cher et pieux docteur Martin Luther, de l'ordre des Augustins. Il commençait ainsi. Nous, Charles, 5e du nom, par la grâce de Dieu, élu empereur romain, toujours auguste, roi d'Espagne, des 2 Siciles, de Jérusalem, de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, etc., archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, comte de Habsbourg, des Flandres et du Tyrol, etc., etc. Puis, le roi de tant de peuples, faisant savoir qu'il avait cité devant lui un moine augustin nommé Luther, ordonnait à tous les princes, seigneurs, magistrats et autres, de respecter le sauf-conduit qu'il lui donnait sous peine de la punition de l'empereur et de l'empire. Ainsi l'empereur donnait les titres de cher, d'honorable et de pieux à un homme que le chef de l'Église avait frappé d'excommunication. On avait voulu, par la rédaction de ce document, éloigner toute défiance de l'esprit de Luther et de celui de ses amis. Gaspard Sturm fut nommé pour porter ce message au réformateur et l'accompagner à Worms. L'électeur, craignant l'indignation publique, écrivit le 12 mars au magistrat de Wittenberg de pourvoir à la sûreté de cet officier de l'empereur et de lui donner une garde si cela était jugé nécessaire. Le héros partit. Ainsi s'accomplissaient les desseins de Dieu. Dieu voulait mettre sur une montagne cette lumière qu'il avait allumée dans le monde. Et empereur, roi et prince s'agitaient aussitôt pour exécuter, sans le savoir, son dessein. Il lui en coûte peu pour exalter ce qu'il y a de plus bas. Un acte de sa puissance suffit pour élever l'humble enfant de Mansfeld d'une cabane obscure jusqu'au palais où les rois s'assemblent. Il n'y a devant lui ni petitesse ni grandeur, et quand il le veut, Charles Quint et Luther se rencontrent. Mais Luther se rendra-t-il à cette citation? Ses meilleurs amis en doutaient. « Le docteur Martin est appelé ici, écrivait le lecteur le 25 mars à son frère. Mais je ne sais s'il viendra. Je ne saurais rien augurer de bon. » Trois semaines plus tard, le 16 avril, cet excellent prince, voyant croître le danger, écrivit de nouveau au duc Jean. « Il y a des ordres affichés contre Luther. Les cardinaux et les évêques l'attaquent avec beaucoup de dureté. Que Dieu tourne tout à bien. Plût à Dieu que je puisse lui procurer un accueil équitable. » Tandis que ces choses se passaient à Worms et à Wittenberg, la papauté multipliait ses coups. Le 28 mars, qui était le jeudi avant Pâques, Rome retentit d'une excommunication solennelle. C'est la coutume d'y publier à cette époque la terrible bulle « Insena Domini » qui n'est qu'une longue suite d'imprécations. Ce jour-là, les abords du temple où devait officier le souverain pontife étaient occupés de bonne heure par la garde papale et par une foule de peuples accourus de toutes les parties de l'Italie pour recevoir la bénédiction du Saint-Père. Des branches de laurier et de myrte décoraient la place devant la basilique. Des cierges brûlaient sur le balcon du temple et l'ostensoire y était élevé. Tout à coup, les cloches font retentir l'air de son solennel. Le pape, revêtu de ses ornements pontificaux, paraît sur le balcon porté sur un fauteuil. Le peuple tombe à genoux, les têtes se découvrent, les drapeaux s'inclinent, les armes sont couchées par terre et il se fait un silence solennel. Quelques instants après, le pape étend lentement les mains, les lève vers le ciel, puis les incline lentement vers la terre en faisant le signe de la croix. Il répète ce mouvement par trois fois. Alors l'air retentit de nouveau du son des cloches qui annonce aux campagnes éloignées la bénédiction du pontife. Des prêtres s'avancent avec impétuosité, tenant des flambeaux allumés. Il les renverse, il les secoue, il les lance avec violence, et comme si c'était les flammes de l'enfer. Le peuple s'émeut, s'agite, et les paroles de la malédiction tombent du haut du temple. Quand Luther eut connaissance de cette excommunication, il en publia la teneur avec quelques remarques, écrites de ce style mordant qu'il savait si bien prendre. Quoique cette publication n'ait paru que plus tard, nous en rapporterons ici quelques traits. Nous entendrons le grand prêtre de la chrétienté sur le balcon de sa basilique, et le moine de Wittenberg lui répondant du fond de l'Allemagne. Il y a quelque chose de caractéristique dans le contraste de ces deux voix. Le pape, Léon, évêque, Luther. Évêque comme un loup est un berger, car l'évêque doit exhorter selon la doctrine du salut, et non vomir des imprécations et des malédictions. Le pape, serviteur de tous les serviteurs de Dieu, Luther. Le soir, quand nous sommes ivres, mais le matin, nous nous appelons Léon, seigneur de tous les seigneurs. Le pape. Les évêques romains, nos prédécesseurs, ont coutume de se servir à cette fête des armes de la justice. Luther. Qui, selon toi, sont l'excommunication et l'anathème, mais selon saint Paul, la patience, la douceur et la charité. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 6 et 7. Le pape. Selon le devoir de la charge apostolique et pour maintenir la pureté de la foi chrétienne. Luther, c'est-à-dire les possessions temporelles du pape. Le pape, et son unité qui consiste dans l'union des membres avec Christ, leur chef et avec son vicaire. Luther, car Christ n'est pas suffisant, il en faut encore un autre. Le pape, pour garder la sainte communion des fidèles, nous suivons l'antique coutume et nous excommunions et maudissons de la part du Dieu Tout-Puissant, le Père, Luther, dont il est dit « Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. » Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. Le Pape, et le Fils et le Saint-Esprit, et selon la puissance des apôtres Pierre et Paul et la nôtre propre, Luther, et moi, dit le loup dévorant, comme si la puissance de Dieu était trop faible sans lui. Le pape. Nous maudissons tous les hérétiques, les garazes, les patarins, les pauvres de Lyon, les arnoldistes, les spéronistes, les passagins, les viclefites, les hussites, les fraticelles. Luther. Car ils ont voulu posséder les saintes écritures, et ils ont demandé que le pape fût sobre et prêchât la parole de Dieu. Le pape. Et Martin Luther, nouvellement condamné par nous pour une semblable hérésie, ainsi que tous ses adhérents et tous ceux, quels qu'ils soient, qui lui témoignent quelque faveur. Luther. Je te rends grâce, ô très gracieux pontife, de ce que tu me condamnes avec tous ces chrétiens. C'est un honneur pour moi que mon nom soit proclamé à Rome au temps de la fête d'une manière glorieuse et qu'il coure le monde avec les noms de tous ces humbles confesseurs de Jésus-Christ. Le pape. De même, nous excommunions et maudissons tous les pirates et les corsaires. Luther. Qui donc est le plus grand des pirates et des corsaires, si ce n'est celui qui ravit les âmes, les enchaîne et les met à mort? Le pape. Particulièrement ceux qui naviguent sur notre mer. Luther. Notre mer. Saint Pierre, notre prédécesseur, a dit « Je n'ai ni argent ni or ». Livre des Actes, chapitre 3, verset 6. Jésus-Christ a dit « Les rois des nations les maîtrisent, il n'en doit pas être de même de vous ». Évangile de Luc, chapitre 22, verset 25. Mais si une voiture chargée de foin doit céder le chemin à un homme ivre, à combien plus forte raison Saint-Pierre et Jésus-Christ lui-même doivent-ils céder le pas au pape? Le pape. De même, nous excommunions et nous maudissons tous ceux qui falsifient nos bulles et nos lettres apostoliques. Luther. Mais les lettres de Dieu, les écritures de Dieu, tout le monde peut les condamner et les brûler. Le pape. De même, nous excommunions et nous maudissons tous ceux qui arrêtent les vivres que l'on apporte à la cour de Rome. Luther. Il aboie et il mord comme le chien qui l'on veut ôter son os. Le pape. De même, nous condamnons et nous maudissons tous ceux qui retiennent des droits judiciaires, fruits, dîmes, revenus appartenant au clergé. Luther. Car Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et ôter ta robe, laisse-lui encore l'habit. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 40, et nous venons d'en donner le commentaire. Le pape. Quelle que soit leur élévation, leur dignité, leur ordre, leur puissance, leur rang, fussent-ils même évêques ou rois? Luther. Car il y aura parmi vous de faux docteurs qui mépriseront les puissances et parleront mal des dignités, dit l'Écriture dans l'Épître à Jude, chapitre 1, verset 8. Le pape. De même, nous condamnons et nous maudissons tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, portent atteinte à la ville de Rome, au royaume de Sicile, aux îles de Sardaigne et de Corse, au patrimoine de Saint-Pierre en Toscane, au duché de Spolète, au margravia d'Ancône, à la campagne, aux villes de Ferrare et de Bénévente, et à toutes autres villes ou pays appartenant à l'église de Rome. Luther. Ô Pierre, pauvre pécheur, d'où te viennent Rome et tous ses royaumes? Je te salue, Pierre, roi de Sicile, et pécheur à Bethsaïda. Le pape. Nous excommunions et maudissons tous les chanceliers, conseillers, parlements, procureurs, gouverneurs, officials, évêques et autres qui s'opposent à nos lettres d'exhortation, d'invitation, de défense, de médiation, d'exécution. Luther. Car le Saint-Siège ne cherche qu'à vivre dans l'oisiveté, dont la magnificence et dont la débauche à commander, à tempêter, à tromper, à mentir, à déshonorer, à séduire et à commettre toutes sortes d'actes de malice en paix et en sûreté. Seigneur, lève-toi, il n'en est pas comme les papistes le prétendent, tu ne nous as point abandonnés et tes yeux ne se sont pas détournés de nous. Ainsi parlèrent Léon X à Rome et Luther à Wittenberg. Le pontife ayant terminé ses condamnations, le parchemin sur lequel elles étaient écrites fut déchiré et les fragments furent jetés au peuple. Aussitôt, une grande agitation se manifesta dans la foule. Chacun se précipitait et s'efforçait de saisir un des morceaux de la terrible bulle. C'était là les saintes reliques que la papauté offrait à ses fidèles, la veille du grand jour de grâce et d'expiation. Bientôt, la multitude se dispersa et les alentours de la basilique rentrèrent dans le silence accoutumé. Retournons à Wittenberg.